Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
On ne peut plus peindre des intérieurs avec des hommes qui lisent et des femmes qui tricotent.
Oh, mais j'adore l'abstrait!
Vous parlez des fesses de votre grand-mère.
C'est une vision occidentale de l'Orient, en recherche de pittoresque et d'exotisme.
Un régal de culpabilité chrétienne.
Vous savez qu'elle fait de la peinture.
Pourquoi la dame, elle est toute nue?
Coucou vous! Bienvenue dans cet épisode bonus de Vénus épilait-elle la chatte? Cet épisode, c'est un enregistrement de la conversation qui a eu lieu le 25 septembre dernier, à l'Hôtel de Ville de Bruxelles, après l'écoute en avant-première du dernier épisode de Vénus, Esthétiser les femmes mortes. Cette rencontre a été organisée dans le cadre du Bruxelles Podcast Festival et des rencontres culturelles de la ville de Bruxelles. On n'était pas loin de 300 personnes, dans une salle magnifique. On a écouté cet épisode tous ensemble, et c'était hyper émouvant de l'écouter en direct avec tous ces gens qui étaient venus exprès. J'étais un peu sonnée parce que c'est quand même un sacré truc quand on a travaillé plus d'un an sur un projet, qui plus est sur un sujet aussi horrible, de le lâcher en direct devant 300 personnes. Mais c'était vraiment une chouette rencontre et elle a été animée par Camille Loiseau.
Rebonsoir à tous et puis surtout à toutes, vu l'Assemblée, à part les statues qui nous regardent d'ailleurs, qui sont que des mecs. Bonsoir Julie Bozac.
Bonsoir Camille Loiseau. D'ailleurs, Camille Loiseau a fait le doublage, j'ai oublié de le dire.
Bah, tu l'as dit à la fin de l'épisode quand même.
Ah oui, c'est vrai. Oui, mais personne n'écoutait à ce moment-là. Enfin, donc bravo, cette merveilleuse voix pour le doublage. Merci vraiment d'avoir fait ça.
Merci pour ça. Donc tu es. Il y a moyen de le mettre un tout petit peu plus fort ou pas le micro? J'ai l'impression de crier dedans. Ou ça va? Vous entendez bien? Ouais, c'est bon. Donc Julie, t'es autrice, créatrice du podcast Vénus épilait-elle la chatte, le podcast qui décortique l'histoire de l'art occidental.
Des tricotes.
Pourquoi je dis décortique à chaque
fois? Ça marche aussi. Franchement, je vais dire ça maintenant.
Ok. Ouais. Donc c'est un podcast qui a été lancé en 2019. Il y a une dizaine d'épisodes et il y a presque 2 millions d'écoutes. Le tout sans concession, en autoproduction et en toute indépendance. Et je pense qu'on peut l'applaudir rien que pour ça. Merci, vous êtes super. On ne va pas prétendre qu'on ne se connaît pas, Julie, qu'on ne se connaît pas au moins un peu, donc je vais te tutoyer,
oui.
Si ça te va.
Très bien.
Super. Avant qu'on commence réellement, je voudrais vous dire que on a un petit peu imaginé ce moment comme une rencontre et un échange où on n'a pas vraiment envie que les questions-réponses restent à la fin. Donc je vais essayer avec mon acolyte Morgane ici présente d'être un peu attentive. Donc voilà, donc si vous avez des questions, réactions, envie de partager des choses à des moments précis, n'hésitez pas à lever la main. Je sais que c'est pas très conventionnel comme manière de faire, mais on aimerait vraiment à instaurer ça plutôt qu'à la fin. Aussi parce que je sais que quand on a des questions et qu'il y a un truc qui se dit, on est tellement obsédé par notre question, par l'idée de la poser, qu'on n'écoute plus le reste. Donc, en tout cas, moi, c'est comme ça. Donc, sentez-vous à l'aise de réagir, prendre la parole, et d'éviter ce côté scène publique, même s'il y a une estrade aussi petite soit-elle. Julie, c'est la première fois que tu fais une écoute d'un épisode, une écoute en avant-première. Je sais que c'est important pour toi et peut-être aussi une source de stress, que ça a pu l'être en tout cas. Donc je voulais te demander ce que ça t'a fait, en fait, tout simplement, de voir tous ces gens réunis et aussi de pouvoir voir, entendre, scruter leurs réactions. Parce que je voyais bien que tu checkais quand même un petit peu ce qui se passait dans la salle.
Ouais, je voulais pas être trop lourde, mais je checkais un peu. Bah, c'est hyper émouvant. En même temps, c'est hyper impressionnant parce que c'est un processus assez solitaire quand même de faire un podcast. Enfin, c'est particulièrement celui-ci. On en reparlera un peu plus en détail. Mais moi, en général, quand je publie un épisode, j'ai passé des mois toute seule à me débattre avec une masse énorme d'informations. Et à minuit, j'appuie sur programmer, puis je vais me coucher, quoi. Donc, c'est assez émouvant et impressionnant. Je me répète, c'est vraiment les deux trucs que ça me fait, quoi, de le lâcher comme ça devant des gens en public, de voir que les gens rigolent au moment où j'ai envie qu'ils rigolent, donc c'est trop cool. Merci d'avoir rigolé. oui, et en même temps, c'était beaucoup de stress. Enfin, il y a pire dans la vie, bien sûr, mais c'était beaucoup de stress parce que aussi, on a pris de grandes précautions. Sur les sujets difficiles abordés tout au long de l'épisode, moi j'avais très très peur que vraiment certaines personnes se sentent mal, et c'est pas du tout l'objectif de ce podcast et de cette soirée, donc moi j'avais hyper peur de ça, quoi. Je craignais beaucoup de voir la moitié de la salle partir, ce que j'aurais compris, hein, mais j'avais un peu peur, donc oui, voilà, le stress il était beaucoup là-dessus, en fait, ouais.
Tu le disais, c'est un processus assez solitaire, la création d'un épisode de podcast, principalement quand c'est aussi... ça va ?
J'avais peur de soif, désolée. Aussi, on s'y met partout.
aussi long, documenté, c'est assez solitaire, et en même temps, il y a une vraie communauté autour de Vénus et Pilétaine la chatte. J'ai pu le voir en allant, déjà là ce soir de nouveau, c'est assez évident, mais en regardant tes derniers posts Insta où t'as mis quelques extraits de cet épisode et où les gens réagissent directement, donc de un en disant on est hyper impatients et impatientes d'écouter la suite, mais aussi en venant compléter certaines de tes informations, et ça je m'y attendais pas trop, notamment je pense que c'est sur le tableau de Millet Ophélia où il y a quelqu'un qui dit oui, en plus il a refusé de payer les soins nécessaires après à Ophélia, enfin c'est pas très clair ce que je dis, mais bon, bref.
Si au modèle à Elisabeth Sidal.
Ah, Elisabeth Sidal.
Ouais, qui était tombée malade. Alors c'est ce que dit Bronfen, ça je l'ai pas mis dans l'épisode parce qu'en fait on sait pas exactement, mais effectivement il y a une abonnée trop mignonne qui a mis je crois que l'information est sur le site du musée, qui disait qu'en fait le peintre avait refusé de payer les soins médicaux qu'avait engendré cette pose de plusieurs mois dans de l'eau, dont apparemment en plus les lampes étaient tombées en panne, donc à un moment elle posait vraiment dans de l'eau glacée, quoi. Donc vraiment la réalité qui dépasse la fiction, et qu'en fait le père de Sidal, donc le modèle, avait dû menacer l'artiste de poursuites judiciaires pour qu'il paye les frais médicaux de sa fille qui était malade à cause de lui. Enfin bon, voilà. Je l'ai pas mis parce que c'est sur le site de La Tête, donc j'imagine que c'est ok. Mais moi j'ai pas trouvé, et Elisabeth Bronfen, mon invitée non plus, me disait qu'il y a beaucoup de mythologie et de légende aussi qui entourent cette histoire-là. Mais oui, c'est génial quand les gens en fait s'intéressent au sujet, viennent donner des compléments d'informations et tout. Enfin c'est vrai qu'il y a une grosse communauté, c'est hyper précieux en fait, ouais.
Comment t'expliques qu'il y ait cette communauté autour de ce podcast-là en particulier ? C'est pas le cas pour tous ?
Franchement, je sais pas. Moi, j'ai l'impression que c'est un malentendu qui va s'arrêter après-demain. Hein. Enfin, je... Non, mais vraiment...
Ça s'appelle le syndrome de l'imposteur. Nous sommes toutes familières.
Franchement, je sais pas. Non, je sais pas.
Ok, donc on passe à cette question.
Non, mais je peux essayer de répondre, mais j'en sais rien. Je pense que simplement... Moi, ce que j'essaye de faire, c'est de pas prendre les gens pour des cons. Et d'expliquer des choses complexes de façon simple, et ce qui moi m'a manqué en fait quand j'étais en études d'histoire de l'art, et même maintenant, enfin des fois j'écoute France Culture parce que je suis obligée, et c'est parce que sur des sujets qui m'intéressent, sur lesquels j'ai envie de comprendre des trucs, et en fait t'as Hubert et Jean-Claude qui disent oui, hein, mais voilà, vous savez de quoi je parle, et tu te sens pris pour un con, et je pense que cette communauté elle est là aussi parce que les gens qui écoutent comprennent que j'essaye de faire tout sauf ça, et de partir du principe que en fait quand on explique les choses clairement, tout le monde est capable de les comprendre en fait, et que c'est insupportable de continuer à créer un entre-soi dans le domaine de l'histoire de l'art mais de la culture en général, hein, ça on y est toujours. J'ai perdu la fin de ma phrase, mais c'était ça.
Ça peut être une fin, hein. Ouais. Mais un point et c'est une fin, voilà. Fin de cette phrase.
Mettons un point.
Ce qui, à mon avis, crée aussi cette communauté, c'est le ton que tu emploies dans le podcast et cette connivence que tu arrives à créer par l'humour, le sarcasme, parfois poussé vraiment à l'extrême. Comment tu as réussi à trouver le ton juste, surtout dans un épisode comme celui-ci où je pense que c'est vraiment pas forcément évident?
Ouais, dans cet épisode-là, c'était particulièrement difficile. C'est vraiment du feeling, en fait, quoi. C'est vraiment tu réécoutes, tu réécoutes, tu réécoutes. Enfin, je veux dire, j'ai pas de recette. Si j'en avais une, je la partagerais volontiers. Moi, je veux jamais faire des trucs trop pathos. Parce que bah, c'est des goûts aussi, hein. C'est pas un jugement moral, c'est juste une question de goût. Moi, en tant qu'auditrice, j'aime pas les trucs trop pathos. Voilà, j'aime bien quand on peut rigoler un peu de temps en temps. Bon, en fait, il se trouve que sur un épisode comme ça, tu peux pas rigoler tout le temps et c'est normal. Et il faut pas. Donc il y a des blagues que j'ai retirées parce que en fait, elles étaient avec le recul, elles me semblaient malvenues et indécentes. Donc je les ai retirées. Celles que j'ai gardées, en fait, c'est sur, c'est lorsqu'on parle de fiction. C'était pas fait exprès, hein, je m'en suis rendu compte tout à l'heure en l'écoutant, en fait. Parce qu'on parle pas de vraies femmes mortes ou maltraitées, ou voilà. Ça, c'est des sujets sur lesquels j'ai pas envie de faire des blagues, en fait. Et je me suis autorisée quand c'était de la fiction, ouais. Pygmalion, notamment, j'ai un peu tout donné parce que vraiment, on a envie de se moquer, quoi. Enfin, c'est pas possible, c'est vraiment. Ça tend la perche, quoi.
Moi, je me suis directement dit aussi en entendant le ton de ce podcast qu'à un moment on allait te le reprocher, qu'à un moment on allait te dire non, mais en fait, c'est un podcast qui parle que à des féministes, entre convaincus, nous on se sent exclus, ouin ouin. Est-ce que c'est un reproche qu'on t'a déjà fait?
Oui, mais.
J'avoue, cette question, c'était juste pour le plaisir, vraiment.
Non, mais en fait, non, mais en plus, c'est intéressant comme question parce que moi, dès le début, quand j'ai créé ce podcast, je me suis dit, je fais de la vulgarisation en histoire de l'art, mais pas en ce qui concerne le féminisme. Parce que d'autres gens le font bien mieux que moi et qu'on peut pas être au four et au moulin. Et donc, déjà, dès le début, je m'adressais un public qui était déjà plus ou moins sensibilisé à des questions féministes. Après, ça touche bien au-delà et c'est super. Mais en fait, ce reproche de « je me sens exclue », oui, bah, c'est un gars de temps en temps qui est pas content, qui vient me dire qu'il se sent exclu, mais pas grave. Il va s'en remettre.
On lui souhaite, en tout cas. J'ai fait des petites parties dans ma modération sur mes feuilles. J'ai plein de feuilles. J'en ai trop d'ailleurs. On n'aura pas le temps de tout faire, je vous le dis. Et du coup, je me dis que comme vous n'avez pas du tout saisi au rebond mon invitation à poser des questions, je m'en doutais. Peut-être on allait profiter de chaque partie pour faire un petit tour, une petite sonde de cette salle en se disant est-ce que quelqu'un ici, quelqu'une, a envie de poser une question à Julie? C'est la première, c'est toujours compliqué. Hein. Ah, oui. Trop bien.
Alors, ma question, c'est très simple, c'est d'où ça devient? Ça veut dire que tu t'es rendu compte qu'il y avait un problématique dans le secteur, mais c'est né de quelque chose, c'est né d'une réflexion ou d'une problématique vis-à-vis de tes cours ou autre?
C'est venu vraiment tard, en fait, parce que moi, j'ai fait un M2 en histoire de l'art, et c'est des sujets vraiment qui n'avaient jamais été abordés, quoi, vraiment un angle mort énorme. Et encore, je vais raconter toute ma vie, je vais essayer d'aller vite, j'ai beaucoup de mal à être synthétique. En fait, moi, j'ai eu des expériences un peu dures dans le milieu du marché de l'art, parce que classisme et sexisme, et qu'on ne me traitait pas très bien, et voilà. Donc j'ai un peu tout balancé, j'ai démissionné, je suis partie à Berlin, et en fait, je ne me suis pas du tout intéressée à ces sujets-là pendant 5 ans. Et c'est en retournant dans les musées, en étant vraiment plus intéressée par le féminisme et les concepts théoriques du féminisme et tout, que en fait, ça m'a un peu sauté aux yeux dans les musées. Et donc j'ai cherché ce qui existait déjà, et j'ai vraiment pas du tout inventé l'eau chaude. En fait, il y a plein de gens qui écrivent sur ces sujets-là depuis les années 70, voire avant. Sauf qu'en fait, c'est des choses qui restent très restreintes au cercle universitaire. Il y a beaucoup de choses, maintenant c'est en train de changer et c'est très cool, mais il y a aussi beaucoup de livres anglais qui n'étaient pas traduits. Et donc je me suis dit bon bah j'invente rien quoi, mais j'aimerais bien faire un truc qui soit déjà qui oblige pas à lire un livre, enfin même si j'aime bien lire des livres, mais ça demande un temps que tout le monde n'a pas forcément. Là un épisode d'une heure bah tu peux l'écouter quand même assez facilement, et qui mette un peu vraiment les choses à plat, et voilà. Je sais pas si ça répond à ta question. Okay.
C'est parfait parce qu'en fait c'était aussi ma prochaine question. Donc ça fonctionne ce truc de questions-réponses pendant. Vous voulez, il y en a une autre ou pas avant qu'on continue? Il n'y avait pas deux mains levées. J'ai l'impression d'avoir vu deux mains levées. Non. Sinon j'enchaîne. Hein. Dites. Non, j'enchaîne. Le déclencheur du podcast, c'était aussi une œuvre. Tu le dis dans une des interviews. Oui. Tu veux en parler un petit peu?
Oui, enfin rapidement, c'est une œuvre en fait d'un artiste allemand entre deux guerres. Alors pas Nouvelle Objectivité, ce qu'on a vu là, mais un mouvement qui s'appelle expressionnisme avec beaucoup de couleurs très très vives. Moi, j'adorais à l'époque. J'avais fait mes TPE, qui est un gros sujet de fin de lycée sur lequel on passe 6 mois. J'avais fait mon TPE là-dessus. Et donc l'artiste s'appelle Kirchner et ça représente une école de danse. Et j'étais trop contente de voir en vrai, parce que c'est beaucoup d'œuvres qui ont été détruites par les nazis, en fait, ce qu'ils appelaient ça l'art dégénéré. Donc il en reste peu. J'en avais jamais vu en vrai, donc j'étais hyper émue. Et puis en fait, passé le moment de joie, je me rends compte que cette œuvre, elle s'appelle l'école de danse. Et qu'en fait, il y a un homme habillé, qui est sûrement le prof, et deux meufs à poil, qui du coup sont sûrement les élèves. Puis moi, je suis restée un peu comme deux ronds de flanc, genre, pourquoi ces femmes ont-elles besoin d'être à poil? Et ça a été un peu... c'était à la Pinakothek des Modernes à Munich, qui est un super musée, mais qui, en fait, regorge vraiment de chefs-d'œuvre hyper sexistes et misogynes. Et en fait, comme j'avais pas foutu les pieds dans un musée depuis 5-6 ans, et que je m'étais entre-temps vachement plus intéressée au féminisme, ça m'a sauté aux yeux, en fait. C'est vraiment le décalage. Parce que cette œuvre-là, même si je la connaissais pas, si je l'avais vue 5 ans avant, j'aurais trouvé ça normal, en fait.
Ok. Est-ce que, du coup, il y a toujours un déclencheur par épisode? Et question sous-question. Est-ce que du coup, pour cet épisode-là, il y a eu un déclencheur particulier, que ce soit une œuvre ou autre chose?
Je me rappelle pas, parce que ça fait hyper longtemps que j'y travaille, donc j'ai oublié ce qui a lancé le truc. Non, c'est vraiment... Bah, moi, une des premières contraintes que j'ai pour les sujets des épisodes, c'est qu'il y ait un livre ou un article sur le sujet et que la personne qui l'a écrit soit vivante. Parce que, bah, comme je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de gens qui ont écrit dans les années 70, 80, qui sont plus de ce monde, malheureusement, et que j'aurais adoré interviewer, mais bon, voilà. Et donc, le livre d'Elisabeth Bronfen, moi, j'en avais connaissance depuis un petit moment, parce que, bah, en fait, tu... Non, attends, je dis n'importe quoi, d'ailleurs. L'anatomiste, le tableau, l'anatomiste, la scène d'autopsie.
La main qui découvre un petit
peu le type qui
corps,
découvre, ouais. Voilà. Il est aussi à la Pinacothèque des Modernes. Et je l'ai aussi vu à ce moment-là. Et je suis aussi restée un peu con devant, genre, pourquoi? Et j'ai rigolé, en fait. Genre, c'est chelou comme autopsie, tu vois. J'ai vraiment trouvé, j'avais pas de clé, en fait, pour le comprendre. Mais bon, ça, c'était il y a peut-être 5 ans. Et je sais plus, j'arrive pas à relier les deux points, mais après j'ai eu connaissance du livre d'Elisabeth Bronfen et ça fait un moment que je voulais faire un truc dessus. Donc ouais, non, il y a moins eu un déclic sur celui-là.
Il y a énormément d'exemples dans cet épisode et dans tous les épisodes de Vénus et Pilétel la chatte. Ils sont particulièrement bien choisis, sélectionnés, analysés, utilisés. Pourquoi c'est aussi important d'avoir tous ces exemples plutôt que juste de la théorie, par exemple?
Bah parce que déjà que la théorie, c'est un peu chiant. Mais bon, ça, c'est mon avis. Et puis, non, parce qu'on parle de choses concrètes, en fait. On ne parle pas que de théorie. On parle d'images qui sont exposées, que les gens voient, qui sont les ancêtres d'images contemporaines aussi. C'est ce que j'ai essayé un peu de montrer dans cet épisode. Enfin, on va peut-être y venir. Je ne veux pas perturber l'ordre des questions.
On va y venir, mais il y a un ordre, mais il n'y a pas vraiment d'ordre, en fait. Hein. Tu fais bien comme tu veux.
Mais qu'en fait, cet héritage-là, il est, il est vraiment à la base de notre culture visuelle contemporaine, quoi. Et donc oui, ça me semble essentiel de mettre des exemples aussi parce que c'est pas la raison principale, mais les types pas contents parce qu'ils sont pas le centre de l'attention pendant une heure, c'est typiquement un reproche qu'ils vont me faire, quoi. De c'est de la théorie, vous partez dans je sais pas quoi, machin. Bah non, en fait, c'est pas de la théorie. C'est tu regardes tel tableau, t'écoutes l'extrait de Nana de Zola, il est fou. Enfin, même là, à la réécouter, moi, j'étais pas bien, en fait. Enfin, tu vois. Donc, non. C'est partout, et c'est tout le temps, et c'est tellement partout et tout le temps qu'on s'en rend plus compte. Donc, c'est excessivement important de donner des exemples pour, garder l'œil ouvert, quoi.
J'ai l'impression que t'en parlais juste avant, c'est donc l'épisode dans lequel il y a le plus de références contemporaines ou à la culture actuelle. D'habitude, c'est beaucoup d'exemples dans l'histoire de l'art. Il y a aussi des exemples contemporains, mais beaucoup moins qu'ici. Et puis, c'est aussi la première fois, il me semble, mais corrige-moi si je me trompe, qu'il y a un vrai appel à la fin, presque un appel à la création, mais presque aussi un appel au secours. De dire, en fait, on a besoin de nouvelles images, on a besoin de nouveaux récits, de nouveaux imaginaires, etc. Et j'ai l'impression, dans cet épisode, d'un turning point qui va peut-être influencer le reste de la série aussi.
Je sais pas.
C'est vrai, c'est un peu dur comme question, en vrai. Mais en tout cas, qu'est-ce qui fait que tu t'es encore plus reliée à l'actualité et à la culture visuelle contemporaine dans cet épisode plutôt que dans les autres?
Ben, je le fais dans tous, mais simplement celui-ci se prête beaucoup. Après, moi, c'est un truc que j'ai en tête depuis longtemps. Enfin, ça fait comme 2 ans et demi que je travaille sur une série d'épisodes sur art et culture du viol. Je sais pas s'ils sortiront, s'ils sortent en quelle année, parce que c'est, enfin, voilà, c'est beaucoup, beaucoup de boulot. Donc, pour moi, c'est pas nouveau, en fait, de relier des codes visuels anciens à des codes visuels contemporains, parce que, en fait, c'est omniprésent. On voit vraiment que les techniques changent, que oui, le cinéma a été un progrès technique, une innovation, sauf qu'en fait, le cinéma, ce qu'il produit n'est pas sorti de nulle part, et ce qu'il produit puise, pas tous les films et toutes les séries évidemment, mais puise dans cet héritage-là, en fait, qui a plus de 500 ans. Et pour l'esthétisation des femmes mortes, c'est hyper flagrant, en fait, quoi. Moi, je suis aussi une grosse consommatrice, j'assume à moitié, mais de true crime, de trucs comme ça, tu vois, de séries policières et tout. Et donc, c'était facile de trouver des exemples, parce que c'est une culture que je connais hyper bien. Et même des séries que j'adore, genre Engrenage. Mais en fait, l'épisode 1 de la saison 1, ça commence sur une meuf morte où on va dire 8 fois dans l'épisode qu'elle était sûrement très belle. Je vous ai pas mis la biblio. Cet exemple, c'est pas moi qui l'ai trouvé, c'est Maud Démé, qui est, voilà, ça c'est la biblio de l'épisode. Et c'est le dernier livre, Confession du cadavre, qui est une chercheuse qui a publié sa thèse sous forme de livre. Et c'est vraiment très intéressant, c'est sur... les cadavres à l'écran, et il y a un chapitre hyper intéressant qui s'appelle La jeune fille et la mort sur spécifiquement les cadavres féminins à l'écran, et donc cet exemple d'engrenage, il est tiré de ce livre.
Tu parles de la nécessité de créer de nouvelles images et de nouveaux imaginaires, et tu l'esquisses aussi un petit peu dans l'épisode à la fin, mais qu'est-ce qu'on fait du coup de ces images là, ces images qu'on a vues, ces images plus anciennes mais qui continue de véhiculer des stéréotypes, des archétypes, de la violence. Qu'est-ce qu'on en fait ?
Bah, moi, je suis pas conservatrice. Je serais bien en peine de dire aux gens comment faire leur boulot. C'est un peu ce que je dis dans l'épisode, ce que je disais dans l'épisode sur Picasso aussi, c'est qu'en fait, personne parle de censure, à part quand il s'agit d'artistes vivants qui mettent en scène leur propre saloperie. Bon, ça, c'est pas le cas pour ce sujet-là. Replacer dans le contexte, en fait, c'est la base. C'est la base. On peut pas. Si je me retrouve à expliquer aux gens comment faire leur boulot, pardon. Mais je pense que les musées ont une responsabilité. On peut pas exposer des œuvres avec de l'argent public et accueillir du public en lui donnant pas des clés de compréhension, en fait. Mais il y a déjà plein de musées qui le font très bien, hein. Mais en fait, ça demande énormément de boulot et ça va pas se faire sur 3 ans, quoi.
Je voudrais qu'on parle d'un exemple parlant dont tu as déjà parlé, fait beaucoup de fois parler, dans une prise de parole. C'est l'intervention de Sonia Boyce. à la Manchester Art Gallery en 2018, qui donne aussi une piste sur qu'est-ce qu'on fait de ces images. Tu veux en dire quelques mots, expliquer un petit peu ce qui s'est passé, le contexte ?
Oui, Sonia Boyce est une artiste contemporaine qui a fait une intervention dans les salles de la Manchester Art Gallery qui expose beaucoup d'œuvres pré-raphaélites. Donc c'est le mouvement artistique qui correspond à la peinture de Elisabeth Sidal en Ophélie, la peinture toute verte qui est à la Tate Britain à Londres. Donc c'est beaucoup de femmes végétatives, décoratives, voilà. Et en fait, elle a enlevé des salles du musée un immense tableau qui s'appelle Hylas et les nymphes. En fait, c'est encore une histoire mythologique. Hylas, c'est un type, je sais plus exactement l'histoire, mais en gros, il a un truc à faire, sauf que il se fait piéger dans un petit étang par les nymphes qui veulent toutes le choper parce que c'est toutes des nymphos, comme nympho, ça vient de là. Voilà, parce que les femmes sont vraiment des perverses qui détournent les hommes du droit chemin. Et donc, c'est vraiment un tableau avec le pauvre Hylas qui est penché. Et puis, en fait, on a 6 ou 7 nymphes qui sont littéralement des clones. Et je me demande si le modèle n'est pas Sidal, d'ailleurs, la même que celle de Ophélie. Et donc, bref, elle a retiré ce tableau des salles du musée en expliquant, en fait, il y avait un petit encart qui disait, bah voilà, j'estime que ce tableau... présente une vision des femmes qui est uniquement décorative, qui est voilà, c'est des clones qui sont toutes belles, qui sont à poil, machin. Je l'enlève pendant un petit temps et puis voici des post-it et voici ce que cette action vous inspire. J'explique pas forcément très bien, mais en gros c'était ça. Et donc les gens ont pu faire un mur de post-it où ils expliquaient ce que ça leur faisait. Et en fait, ce qui, moi, m'avait un peu choqué à ce moment-là, c'est pas l'action en soi, c'est la façon dont les médias l'ont... C'est pire que mal compris, ils n'ont fait aucun effort pour comprendre vraiment de quoi il s'agissait. Notamment, il y avait un article dans le site, il est bleu et jaune, pardon, j'ai oublié.
Le Guardian ?
Oui, c'est ça, merci. D'un type qui s'appelle Jonathan, qui était pas content.
C'est préparé, hein, tout ça. C'est
ça. Et voilà, et Jonathan n'était pas content parce qu'il disait « Ah, c'est n'importe quoi, et la prochaine étape, on décroche Picasso ?» Bah oui. Bah voilà, donc c'était vraiment pauvre, quoi, comme analyse, alors qu'en fait l'action de Sonia Boyce, elle était hyper intéressante, elle était hyper riche, elle ouvrait vraiment des discussions et les gens, en fait les gens ils sont pas cons, enfin tu vois, les gens quand tu leur expliques les trucs ils comprennent, et donc il y avait plein de choses hyper intéressantes dans ce mur de post-it. Je sais pas ce qu'il en est advenu, ça fait comme 5 ans, mais en tout cas des choses comme ça c'est hyper intéressant pour attirer l'attention du public, et c'est aussi hyper intéressant que des musées laissent des artistes, après Sonia Boyce c'est pas n'importe qui, enfin c'est quand même une artiste méga renommée, voilà, mais c'est hyper intéressant que des musées aient le courage et l'honnêteté de se dire bah nous on sait pas forcément quoi faire, on va peut-être inviter d'autres gens. C'est un peu, enfin pardon, je dévie un peu dans tous les sens, mais c'est comme l'expo Picasso au Brooklyn Museum avec Anna Gatsby. Bah c'est trop bien. Enfin, je l'ai pas vu parce que j'avais pas fait un aller-retour à New York exprès pour ça, mais c'est trop bien. Et y a aussi ce truc, j'en sais rien. Moi, j'ai très peu de contacts dans les musées, donc vraiment, et puis les rares que j'ai, c'est des chouquettes, donc c'est difficile de se rendre compte de vraiment comment c'est. Mais je pense que c'est bien aussi de se dire, bah peut-être qu'il y a une urgence à faire un truc. Peut-être qu'on va perdre trop de temps nous à se former. On va peut-être donner le micro et la parole à une personne qui sait faire. Ça, c'est cool. Et il y en a de plus en plus. Donc c'est une bonne chose.
Ça veut dire renoncer à une partie du pouvoir qu'on a en tant que curateur. Bah oui, non mais.
Eh oui, c'est ça, et c'est pour ça que plein de musées ont du mal à le faire. Exactement, ouais. Exactement. Et puis ça veut dire payer les gens aussi, les payer correctement. C'est aussi un frein.
On va bientôt passer à la partie qui est vraiment plus sur le process de fabrication d'un épisode et aussi de cet épisode en particulier. Mais avant ça, petit tour de questions.
Ah. C'est pas vraiment une question, mais je voulais en tout cas vous remercier pour votre podcast, parce que moi ça m'aide beaucoup, en tout cas à l'école. Je suis professeure d'art plastique en secondaire, l'équivalent du collège pour vous. Et il y a des épisodes entiers que j'ai mis un temps fou à écouter parce que c'était très dur. Là, je tombe des nues en me disant ben oui, parle avec elle et Laura Palmer, c'était hyper trash. Moi, c'est toute mon adolescence, donc c'est vraiment particulier. Ça me remet en question tout le temps. Et ça me permet de remettre en question nos choix dans la bibliothèque de l'école, dans ce qu'on propose à nos élèves adolescents. Enfin voilà, donc merci beaucoup, beaucoup. Et moi, je trouve qu'il faut apprendre aux gens leur métier un peu, parce que sinon, moi, je ne remettais pas en question Picasso avant un petit temps encore. Voilà. Oui, donc, merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Moi, j'ai une question assez simpliste, mais peut-être plutôt personnelle, à savoir si le fait d'être actif dans ce que vous faites, est-ce que c'est quelque chose qui apaise une quelconque colère, s'il y en a une, ou est-ce que ça vous gonfle est-ce que si cette colère existe, est-ce que enfin, c'est ça qui vous nourrit? Je ne sais pas si je suis très claire. Si. Est-ce que ça vous apaise ou est-ce que justement ça vous...
Alors,
ça augmente une colère, voilà.
Apaiser, c'est un bien grand mot. Par contre, ça dirige la colère, qui est quand même là souvent. Ça la dirige, ça la canalise et ça... Comment dire? J'ai un peu l'impression de faire quelque chose qui est utile, voilà. Et ça, c'est bien, quand même. Vraiment. Voilà, non, je... Mais non, ça n'évacue pas la colère, en fait, quoi. Enfin, le passage sur les féminicides, je l'ai enregistré en août. On est un mois plus tard. En France, on est passé à 96. Il y en a eu 16 en un mois, en fait. Donc, là, épisode ou pas épisode, en fait, la colère, elle est là, tu vois. Enfin, c'est... Mais en tout cas, ça la dirige, ça donne un sens à la colère, ce qui est quand même déjà un truc assez précieux. Je fais beaucoup de sport aussi depuis quelques mois. C'est pas mal aussi pour gérer la colère. Je sais pas si ça répond à votre question.
Ouais.
J'ai pas grand chose à ajouter, non, à part que oui, je suis en colère, mais comment ne pas l'être en fait, enfin.
Moi, je me permets d'ajouter un mini truc là-dessus, même si on ne m'a pas demandé mon avis. Un move de mec blanc, ça.
Vas-y, toi, tu peux.
C'est pour vous. Non, mais après, je trouve que par rapport à la colère, il y a souvent ce truc de la contrôler, la gérer, ne pas l'exprimer, enfin, peut-être pas ne pas l'exprimer, en tout cas, chercher à la contrôler, à la gérer, aussi parce qu'on nous a beaucoup dit, je crois, pour les personnes qui ont été sociabilisées en tant que femmes, que c'était une émotion qui était négative, non recevable, etc. Et que je suis pas forcément d'accord avec ça, et que je crois qu'elle a beaucoup d'aspects aussi positifs et empouvoirants, même si je déteste ce terme, mais j'ai pas encore réussi à trouver un terme meilleur. Mais il y a plein de bouquins là-dessus aussi, libérer notre colère, tout ça. Il y a plein de bonnes références là-dessus. On en parle après en cassant des gueules. On m'a dit qu'il fallait bientôt clôturer, mais je voulais quand même. Il y avait quand même une partie que je voulais vraiment aborder. Y a des épisodes qui marquent plus que d'autres, il y a des épisodes qui prennent plus de temps que d'autres. Celui-ci t'a pris un an de travail, plus ou moins. La version que tu m'as envoyée il y a quelques jours pour que je l'écoute avant s'appelait Femme morte version 37.
Ah seulement ?
Ouais, bah, c'est pas mal déjà.
Bah là, c'est la V47.
Ah oui, donc en fait, en 10 jours, il y a eu 10 versions.
Non, mais à chaque fois, je rajoutais, c'était 3 secondes. Hein.
Ok. comment est-ce que tu procèdes pour fabriquer un épisode comme celui-ci? Pourquoi ça prend autant de temps? Qu'est-ce que ça implique? Et si tu veux aussi après montrer la fameuse image qu'on a mis de côté pour les gens ce soir, on peut aussi faire
oui,
ça à ce moment-là.
Ben en fait c'est beaucoup de, c'est vraiment des couches successives quoi. Enfin. V47, ça veut pas dire que j'ai écrit 47 fois une version différente du script, hein, c'est pas ça, c'est je rajoute ou j'enlève des choses au fur et à mesure. Oui, ça fait un petit temps, ouais, le bouquin d'Elisabeth Bronfeld, j'ai lu en mai 2022 et j'ai fait l'interview en juillet 2022. Bon, après, j'ai emménagé à Bruxelles, il y a eu beaucoup de choses aussi qui se sont passées dans ma vie qui font que j'ai pas travaillé tout le temps. Et puis, c'est ce que je dis au début de l'épisode, c'est que des fois, je pouvais pas m'y mettre, quoi. J'avais la boule au ventre, j'arrivais pas à m'y mettre parce que c'est horrible. Horrible, pardon, ma voix s'est cassée. Mais du coup, ouais, c'est vraiment des couches successives que c'est difficile d'expliquer parce qu'il n'y a pas vraiment de process. Tu vois ? C'est pas bien. C'est pas bien, on continue. Bah, c'est toujours pas bien. Enfin, tu vois, il n'y a pas de... Je m'arrête quand je trouve ça bien, en fait. J'ai pas de... Le seul avantage de mon statut, qui est à dire un statut de bénévole, c'est que ce que je fais ce que je veux quand je veux. Voilà, c'est quand même très bien. Donc j'ai pas de contraintes de temps. C'est pas pour ça que je glande, hein, mais souvent cette absence de contraintes, elle est hyper précieuse parce que des fois tu vois plus clair en fait dans ce que tu fais. Et donc j'ai aucun souci à me dire là je le pose pendant une semaine, j'y touche plus, j'y pense plus, je fais autre chose, je le reprends dans une semaine. Ce qui a été particulièrement difficile, vraiment je me plains pas, hein, je suis trop contente d'être là, mais ce qui a été un peu difficile avec celui-ci, c'est que il y avait cette date butoir qui est trop bien, mais du coup il y avait une date butoir. Et il y a aussi le fait que j'ai dû le mixer moi-même pour des raisons de calendrier et de budget. Et donc, mixer, ça veut dire réécouter comme 60 fois les trucs. Et donc, c'est insupportable, je peux plus l'écouter. Et donc, celui-là, oui, il a été particulièrement difficile, particulièrement long, mais c'est vraiment un ensemble de trucs. Tu vois, celui sur Picasso, il a été très difficile aussi. Mais j'avais pas cette contrainte de temps et de mixage. Celui-ci, c'était vraiment ces deux contraintes-là qui ont été très dures à gérer sur les dernières semaines, hein, c'est vivable, hein, c'était pas sur l'année.
Tu parlais de ton statut, donc je voulais qu'on parle autoproduction et indépendance un tout petit peu. La première fois que je t'ai vue en vrai de vrai, donc je connaissais ta voix pour avoir écouté le podcast, mais la première fois que je t'ai vue en vrai, c'était au Paris Podcast Festival. Cette année-là, cette édition-là, t'as remporté, je crois, 3 prix, il me semble. Donc t'es montée 3 fois sur scène et les 3 fois où t'es montée t'en as profité pour dire un peu merci à tout le monde mais aussi pour dire en fait rendez-vous compte des conditions matérielles, financières de la réalisation, la production, la création de ce podcast. Ça m'a hyper fort touchée à ce moment-là. Donc il y a évidemment tout un aspect de précarité et de difficulté par rapport à ça. Et puis, tu as aussi dit, en fait, c'est ça qui me permet de faire le podcast comme j'ai envie qu'il soit. Tu veux un petit peu élaborer
oui.
là-dessus ?
Oui, vraiment, parce que je voudrais pas avoir l'air de me plaindre de ma situation. Enfin, en fait, moi, maintenant, je suis très contente que personne me paye et me dise quoi faire, même si j'aimerais bien qu'à terme, on me paye un peu. Mais parce qu'en fait, ce podcast, il aurait pas existé s'il avait été produit au sein d'une société de prod, parce que tout simplement, c'est des sociétés dont l'objectif est de gagner de l'argent, et qu'un podcast comme ça, il coûte énormément d'argent, parce qu'il faut payer tout le monde. Dans un monde idéal, il faudrait me payer moi, mais qui n'en rapporte pas, parce que tout simplement, c'est un épisode d'une heure tous les 6 mois, voire là, tous les ans. J'espère que ça sera un peu plus vite le prochain. Mais c'est complètement déconnecté en fait de tout enjeu capitaliste et financier. Donc en fait, moi j'aurais voulu être produite au début simplement parce que j'avais envie d'être accompagnée, parce que je connaissais rien et que j'ai dû me former toute seule et que ça aurait sûrement été plus vite si on m'avait aidée. Mais en même temps, je suis très très contente que ça soit pas fait et qu'ils m'aient foutu des râteaux tout autant qu'ils sont, parce que finalement, ça n'aurait pas pu voir le jour. Un épisode comme celui-ci, je sais pas, ça aurait coûté, je sais pas, 25 000 euros à produire. Il y a aucune boîte de prod qui va mettre autant d'argent pour un seul épisode, sachant que c'est un seul épisode. Donc il y a une plage de pub au début, une plage de pub à la fin. L'intérêt des sociétés de prod, c'est d'avoir déjà le même épisode coupé en 4 pour avoir 4 fois un quart d'heure et donc 8 plages de pub. Enfin, c'est vrai, hein, pardon, je rentre dans des détails méga techniques, mais c'est une réalité. C'est pour ça qu'il y a plein d'épisodes coupés artificiellement, à mon humble avis, et que c'est chiant à écouter, à mon humble avis. Mais donc non, ça sort complètement de toute logique capitaliste, et finalement je suis très très contente de le faire toute seule en pige chez moi, parce que je fais exactement ce que je veux, quoi.
En pige chez toi, est-ce que ça serait pas le moment de... On nous met de la musique pour nous faire comprendre que c'est bientôt fini. J'ai encore une petite question, donc je vais la poser. Mais est-ce qu'on peut voir ton studio, Julie ?
Oui.
Incroyable. Ouais, c'est des stories, du coup on voit pas super bien, mais non, donc le bureau de Julie, c'est son Tancarville, son collègue, comment il s'appelle déjà ?
Lulu,
pardon, excuse-moi, oh, putain, c'est vraiment très très vexée.
Non, en fait, j'ai pas retrouvé les photos, mais ouais, c'est la première fois que j'enregistrais à Bruxelles, et du coup, j'enregistre dans ma chambre parce que c'est là où le son est le mieux. Et du coup, j'ai dû poser l'ordi et l'enregistreur sur le Tancarville, et c'était assez confortable, hein, mine de rien. Et donc, oui, rappeler que effectivement, c'est pas parce qu'on a un podcast qui marche bien entre guillemets que
2 millions d'écoutes quand même, bon, ça marche
oui,
pas mal.
Mais ça marche bien, ça va. Mais oui, ça n'a rien à voir avec les conditions de production. Et mais après, je me plains pas. Hein. Moi, je suis très contente de faire ça chez moi sur mon Tancarville. Hein.
Petite partie, donner de l'argent à Julie. Donc, juste avant qu'on finisse, je sais, ça fait 3 fois que je dis ça, mais ça va vraiment finir. Il y a eu l'agenda, il y a eu les carnets Malpoli. Ce sont des choses qui t'ont permis de continuer à faire ton travail et à le faire correctement et à le faire dans les conditions que tu voulais et à pouvoir quand même gagner un peu d'argent pour payer ton loyer. Il va y avoir les conférences bientôt. Il va y avoir des conférences en ligne qui seront payantes. Ça sera 10 €, ce qui est quand même que dalle. Tu veux dire un truc sur les conférences ou pas ?
Oui, je peux dire. Après, c'est pas encore acté les dates, voilà, mais ça commencera, je pense, courant octobre. Stay tuned. Mais en fait, c'est un truc que j'aime vachement faire. En fait, c'est des sujets que j'ai envie d'aborder et que pour l'instant je peux pas aborder en épisode parce que j'ai pas d'invité, je manque d'infos. Enfin, mais c'est vraiment des sujets qui moi qui me tiennent à cœur. Je voudrais parler notamment de l'histoire de la censure dans l'histoire de l'art. Je voudrais peut-être en faire une sur séparer l'homme de l'artiste, mais pas que Picasso, parler de Gauguin, de Degas, et puis aussi d'artistes plus contemporains. On m'a coupé le micro ?
Ah ouais, vraiment, on est sur un sabotage en règle, quoi, entre la musique et les micros, les gars.
Non, mais il fonctionne. Non, c'est juste moi qui l'ai mal tenu.
La colère, je vous dis.
J'aimerais aussi en faire une sur la culture du viol. Et puis là, je pense que la première que je ferai, c'est celle que j'ai déjà faite au mois de mai, qui s'appelle « Comment le patriarcat a façonné l'histoire de l'art », qui est vraiment une porte d'entrée assez globale sur comment, voilà, tout ça. Donc il y aura toutes les infos, c'est juste là c'est un peu prématuré de rentrer dans les détails pour l'instant, mais ça va se mettre en place doucement à partir du mois d'octobre, ouais.
Et il y a encore ton Patreon aussi, sur lequel on peut continuer à donner pour t'aider à continuer à faire ce travail de qualité. En fait, je regarde le temps, je me dis qu'on m'a un peu pressé pour rien parce qu'il est 20h25 et qu'on nous a dit qu'on avait jusqu'à 20h30, ou alors je me trompe, je sais pas, mais on va profiter des 5 dernières minutes du coup pour voir s'il y a encore des questions.
Yes!
Il y en a au moins 3.
C'est pas vraiment une question, mais c'était une remarque. Je sais pas si ça. En fait, du coup, j'essayais de me rappeler, est-ce que c'était présent dans les autres épisodes ou pas ? Je me souviens pas à ce point, mais ce qui m'a frappé vraiment là, c'est les extraits littéraires. C'était plus présent cette fois-ci, non ?
Non, c'était pas plus présent, mais ils sont particulièrement gratinés.
Ah oui, d'accord.
Ouais.
Mais du coup, peut-être aussi leur date et l'univers, mais oui. Je voulais dire que ça m'a particulièrement embarqué parce que moi, j'ai plutôt une culture littéraire, théâtrale que visuelle. Ouais. Et du coup, c'est hyper intéressant qu'il y ait ce pont-là aussi, puis avec les extraits de musique, enfin, il y a aussi d'autres univers. J'ai aussi beaucoup pensé à des séries télé actuelles, des trucs très mainstream, françaises, les petits meurtres d'Agatha Christie ou Capitaine Marlowe, enfin des trucs comme ça, où il y a systématiquement des femmes qui meurent, mais systématiquement, genre 95% des femmes, des personnes tuées sont des femmes. Mais par contre, il y a une dimension féministe dans le regard de la réalisation, et je me suis dit, tiens, c'est marrant parce que cet objet-là, lui, par contre, il change pas. On va faire des remarques, on va avoir une capitaine ou une équipe avec des femmes qui va faire des remarques sur ces meurtres, mais par contre, l'objet du meurtre, enfin, l'objet entre guillemets reste une femme. Mais pour revenir aux extraits littéraires, du coup, je me suis dit, mais c'est fou quand même comment j'ai été influencée par cette littérature-là, Maupassant, etc., etc., Zola, etc. Et tout l'univers morbide qu'il y avait associé à ça, et comment les choses quand même ont changé, en tout cas dans nos imaginaires, du moins j'espère.
Je sais pas, hein, y a, Guillaume Musso a sorti un bouquin qui s'appelle L'inconnu de la scène là récemment, donc ouais, je suis pas sûre que ça ait vraiment, vraiment évolué. Hein.
En tout cas, moi, en écoutant ça, je me suis dit, ah oui, moi j'ai bougé, parce que très clairement maintenant, je sais que cette esthétique-là, ben, en fait, j'ai grandi, j'étais quand même prise dedans avec une forme de fascination aussi, où on s'identifie aussi à ces personnages et l'aspect... ouais, esthétique ou attirant. Et là, là, je me dis, ah oui, non, là, là, non. Donc, je suis assez heureuse de ça, ouais.
Non, mais c'est vrai que les extraits littéraires, ils sont importants aussi pour se rendre compte que c'est la culture dans son ensemble. C'est pas que l'histoire de l'art, c'est pas que le cinéma. C'est la grande culture qu'on porte au nu, en fait, quoi. J'ai fait exprès de choisir... des écrivains très connus comme Gautier, Zola, Nabokov, parce que c'est des types qu'on continue d'encenser, qu'on fait des choses très bien par ailleurs, hein. Mais de se rendre compte que personne n'y échappe, en fait.
Et oui, merci beaucoup.
Bon, bonsoir, merci Julie. Je sais que ça fait pas longtemps que tu es à Bruxelles ou en Belgique, mais je me demandais si tu avais des recommandations de musées ou de lieux d'expo que tu aurais envie de nous partager, ou des endroits à nous dire de ne pas du tout aller. Je sais que tu m'en as parlé d'un, mais bon, voilà, des exemples ou des recommandations. Ou en France.
Là, comme ça, à froid, j'en ai pas, mais je suis nulle pour répondre à chaud sur des trucs comme ça. Mais non, bah après moi je sais ce que j'aime trop ici, c'est les maisons Art Nouveau, mais c'est des trucs que j'ai pas encore visités, tu vois, genre la maison Cauchy, j'aimerais trop y aller. Fanny m'avait parlé de la maison des Arts de Scarbeck qui a l'air incroyable, j'aimerais trop y aller aussi. En fait, il y a beaucoup de choses qui me font rêver mais que j'ai pas encore eu le temps de voir. Qu'est-ce que... Ah si, j'adore, alors aucun rapport avec l'histoire de l'art, mais j'adore le musée de la médecine à Erasme. Trop bien. Il est vraiment trop, trop intéressant. Ça coûte 2 ou 3 euros. Non, t'as des idées, Camille, de trucs?
C'est juste qu'on s'est vu ce matin, quand on était encore un peu dans le pâté, qu'on était moins réveillés que maintenant. Et on s'est parlé quand même des journées du matrimoine, en se disant que c'était le week-end qui arrive, là, donc...
Oui, bah globalement, toutes les visites guidées de l'archiquis des genres, enfin, je ne les ai pas toutes faites, j'en ai fait que 3 ou 4, qui sont vraiment géniales, que je peux que recommander. Ouais.
Je voulais prendre la parole en premier pour être sûre que ce ne soit pas un homme cis qui le fasse, mais visiblement, ils apprennent à se tenir, sinon ça se serait fini dans un body bag, ça aurait cassé l'ambiance, tout ça. Je voulais juste te dire merci. Vraiment, du fond du cœur, merci et merci pour ton bénévolat. Et on est plein de bénévoles dans plein de domaines différents à se donner du courage et à se donner les nerfs. Merci mille fois de nous nourrir, nous, pour tous nos combats. Et rien que sur cette rangée, il y en a 27 des combats différents, mais qui sont... qui convergent et voilà, et tu nous nourris. Et par rapport à la loi féminicide, je voulais dire merci Sarah aussi.
Merci.
Une dernière question ou pas? En vrai, vous pourrez aussi poser vos questions juste après. C'est peut-être moins stressant que dans le micro directement devant tout le monde. Parce qu'il y a un drink.
Oui.
Yeah. Je voulais vraiment, vraiment, vraiment vous remercier fort parce que ça m'arrive assez régulièrement de quand même modérer, animer des discussions. Et c'est rare que les gens soient aussi attentifs, attentives, vraiment, et restent jusqu'au bout et soient aussi pertinents dans leurs questions et soient aussi chouettes. Enfin, c'est vraiment du coup un plaisir d'être là. Et bah, Julie, tu sais tout le bien que je pense de toi et de ton travail, donc merci infiniment pour tout ce travail, pour cette écoute, pour cet épisode, pour cette discussion, pour tout ce que tu fais. Merci à la ville de Bruxelles, merci à Morgane, encore une fois Morgane Lisenov qui est là, et au Bruxelles Podcast Festival. Voilà, c'est tout, on va se quitter.
Merci beaucoup d'être venu.
Merci beaucoup à toutes les personnes qui ont rendu cette rencontre possible. Camille Loiseau et Morgane Lisanoff pour le Bruxelles Podcast Festival. Et Delphine Houba, Noémie Feld et Gaëlle Zguimi pour la ville de Bruxelles. Je les remercie toutes les cinq et je remercie aussi du fond du cœur toutes les personnes qui étaient venues ce soir-là, ainsi que vous-même qui venez d'écouter cette conversation. En fond, c'est Lulu, mon assistant. Je le laisse un peu parce que je crois que tout le monde en a bien besoin. Je vous embrasse si vous le voulez bien, et à très vite, ou à moins vite, pour un nouvel épisode.
Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.